Hélas, il est. Alors, il est 12h55. Je pense qu'on peut prendre. On peut prendre du temps pour répondre à des questions à la fois sur les deux précédentes interventions, mais aussi sur les interventions qui ont eu lieu en tout début de matinée. Est-ce que certains éléments, je ne sais pas, vous posent question? Est-ce que vous voulez revenir sur. Oui. Alors.
Moi, je voudrais réagir à l'exposé de Jean-Sébastien Deliman, parce qu'effectivement, c'était très intéressant d'avoir un regard extérieur. On s'est posé ces questions, sans doute moins bien formulées d'ailleurs que vous ne le faites. On s'est posé ces questions, mais je pense que, y a un certain nombre de. Enfin, je voudrais soumettre un peu un certain nombre de problèmes auxquels on est arrivé. On a bien entendu, alors vous dites que ça ne suffit pas, je suis d'accord, mais on a bien entendu demandé aux gens leur accord pour l'anonymat. On a bien entendu présenté le dossier à la CNIL, donc on a pris les garanties institutionnelles qu'il fallait. Et en même temps, je pense que comme vous dites, c'est très lié au contexte, il n'y a pas d'absolu. On est arrivé à des problèmes. Alors, d'un côté, vous dites qu'effectivement, l'acceptation, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est vraiment un problème auquel on s'est heurté, l'acceptation du non-anonymat ne vaut pas, n'est pas un blanc-seing, quoi, pour le chercheur. Nous, on est dans une situation. Alors, au-delà du fait qu'en plus, il y a des émissions de radio, etc., donc on pourrait changer les noms, mais les voix se reconnaissent. Donc, au niveau de l'entourage, ça ne change pas grand-chose, je pense. Mais on est dans une situation où il y a vraiment. Où effectivement, les témoins réclament, mais c'est plus que simplement oui, je veux bien. Réclament fortement ce non-anonymat parce que. Ils considèrent qu'ils participent à un témoignage historique. C'est-à-dire que ça dépasse quelque part l'enquête sociologique. Ils prennent. Enfin, d'abord, il y a une reconnaissance. Ça vous a fait raison. Ça, c'est particulièrement vrai d'ailleurs. Peut-être pas en Europe centrale et orientale, parce qu'ils sont déjà dans les journaux, ils sont enfin, une partie, mais en tout cas, il y a une habitude de voir le témoignage. Mais il est évident qu'en Sibérie, de voir arriver des gens qui viennent de Paris à Irkoutsk pour aller interviewer pendant 2 heures quelqu'un, c'est pour eux une reconnaissance. Et cette reconnaissance doit aller jusqu'au non-anonymat. Mais donc, ils considèrent qu'ils participent implicitement un petit peu à un témoignage pour l'histoire. Ce qui dépasse peut-être, je ne vais pas dire que l'histoire est au-dessus de la sociologie, mais ça dépasse quand même l'enjeu sociologique de témoigner pour l'histoire. Et malgré tout, et c'est là qu'il y a un vrai problème, donc nous, on a effectivement choisi, à partir du moment où ils acceptaient, de les présenter, d'autant plus qu'il y a des photos. Enfin bon, mais on pouvait. Il y a au moins. 4 témoins qui ont demandé l'anonymat. Je sais qu'il y a une salle qu'on est en train de faire d'ailleurs et où effectivement on va tout faire pour que la personne ne soit pas identifiable. Donc on ne mettra pas ses photos. D'ailleurs, elle n'a pas voulu qu'on la photographie, je crois, mais bon, ça c'est pas grave. Ce qui est assez logique. Mais effectivement, pour les autres. Mais alors, il y a deux choses. D'une part, les dommages collatéraux. Alors, les dommages collatéraux, je pense que ce n'est peut-être pas en termes, comme vous le dites, enfin, ce n'est pas la question que vous posez, mais c'est plus qu'il peut y avoir très bien un refus des enfants de voir leurs parents présentés comme ça. Bon. Ça, je ne sais pas trop comment. Alors, jusqu'où peut-on aller? C'est-à-dire jusqu'où la vie d'un individu appartient à cet individu. Moi, je pense à un cas bon, qui n'est pas présenté, mais quelqu'un qui est effectivement très, très soviétique. Bon, alors déjà, ça, c'est l'autre question. Est-ce qu'il acceptera qu'on le dise? Mais je doute que ses enfants aimeront voir mis en scène leur père de cette manière-là. Et du coup, le dommage collatéral, ça ne touche pas la personne, c'est plus l'enfant qui se considérait propriétaire quelque part du récit de son parent. Et ça, vous ne l'avez pas du tout évoqué, je pense que c'est un gros problème. Personnellement, je pense que la vie appartient d'abord à la personne, sinon on s'en sort pas. Mais moi, il me semble que c'est une question qui mérite d'être posée. Il y a la question du danger aussi, qui est relativement faible et qu'on s'est posée. Ça peut être vrai en Russie, bon, c'est plus trop le cas, mais on sait jamais comment les choses peuvent se tourner. Mais ça, on l'a un peu évacué parce qu'elle nous a pas semblé essentielle. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas les conjonctures historiques qui peuvent ensuite faire le fait que les gens racontent. Donc, ça, c'est une question qui est assez essentielle. Et le troisième aspect que je voulais soumettre et que j'ai oublié. Bah c'est pas grave, comme j'ai oublié, je le soumettrai un peu plus tard, ou ça me reviendra peut-être. Mais je pense que cette côté d'appartenance, enfin, dommages collatéraux, moi ça me pose un problème et je sais pas s'il y a cet extrait.
Alors, je vais pas pouvoir répondre à tout, hein, parce que c'est des questions qui demanderaient à réfléchir longuement. Mais alors, plusieurs points auxquels j'ai pensé là dans la matinée, auxquels ces questions me refont penser. Il y a un point important, je trouve, dans le dispositif d'enquête qui a été rappelé aussi dans l'intervention qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a tout un dispositif technique. Donc, ce dispositif technique, il fonctionne aussi pour les gens comme une manière de leur dire, bah oui, on veut garder votre voix, on veut la faire écouter. Donc là encore, le pacte d'enquête, il est un peu différent. Donc ils sont prévenus d'un certain nombre de choses. Je trouve que ça règle certains problèmes. Je trouve que, alors, moi, une solution à laquelle je penserais pour les problèmes que vous vous posez, c'est un peu la distinction des supports. C'est-à-dire que d'une part, y a des gens qui ont témoigné pour vous et qui veulent témoigner en leur nom. Et donc, effectivement, je vois pas de raison de refuser ça. Donc, simplement, il me semble qu'il doit être possible, c'est compliqué, c'est à voir au cas par cas, mais il doit être possible sur certains cas de garder les photos, la voix, le témoignage et de l'utiliser sur un support internet ou à la radio, etc. Et de distinguer ça de certaines publications scientifiques où on veut montrer autre chose, où on utilise d'autres éléments, on utilise, je sais pas, ce qu'on a vu dans les dossiers ou ce qu'on dit d'autres gens, où là ça pose problème. Et à ce moment-là, on va pouvoir, si on veut, utiliser des techniques d'anonymisation, parce qu'on n'est plus dans le témoignage, on est dans la production scientifique avec une visée problématique, etc. Alors c'est compliqué, hein, à partir d'un cas comme ça d'en faire deux, l'un anonymisé, l'autre pas anonymisé, mais il faut regarder au cas par cas, et je pense que parfois il y a moyen de faire ça, et que c'est une solution importante. Après, sur la question des enfants, là aussi, je suis pas certain de la position qu'il faut tenir, mais il me semble que, d'une part, les problèmes d'objectivation, c'est-à-dire que les problèmes qui sont liés au fait que les gens ne sont pas d'accord avec les analyses qu'on fait d'eux, que ce soit eux-mêmes ou les enfants. Bon, ça, c'est la position du scientifique qui veut ça, et c'est quelque chose qui me semble on peut et on doit assumer. C'est-à-dire que, voilà, parfois on écrit des choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, ils peuvent réagir. Si on n'est pas en train de, effectivement, les mettre en danger ou faire des choses trop violentes, bon, voilà, ça fait partie de ce métier-là. Et d'autant plus, il me semble, par rapport à des enfants. Si on a l'impression d'avoir respecté à peu près les engagements du pacte d'enquête avec la personne à qui on a parlé, que l'entourage soit pas d'accord avec les analyses ou avec la façon dont sont présentés les gens, ça me semble pas être un vrai problème éthique. Et voilà, là encore, c'est un des risques qu'on prend de fâcher les gens, que les gens soient pas d'accord, que ce soit les personnes elles-mêmes ou l'entourage. Donc voilà, il me semble que ça, c'est un problème qu'on peut assumer.
Bonjour. Je suis photojournaliste et je fais un reportage sur les anciens déportés en Roumanie. Donc, je fais des portraits. Et en ce qui concerne les questions éthiques de l'enquête, je suis tout à fait d'accord avec vous. Normalement, je clarifie dès le début ce que je vais en faire, etc., etc. Mais un autre aspect éthique, c'est le journalisme, c'est la véracité. C'est ce que les gens racontent. Et là, est-ce que vous vous êtes posé jamais la question, est-ce que c'est vrai ce que cette personne me raconte? Parce que c'est, pour moi, c'est, j'enregistre aussi nos discussions, je fais aussi des vidéos, et c'est là, bon, les photos sont silencieuses, mais ce sont les témoignages oraux, surtout les histoires très personnelles, que les gens n'ont pas en commun avec d'autres personnes qui étaient déportées. Là, je me dis, comment vais-je vérifier si c'est vrai ou pas? Parce que souvent, la personne est la seule survivante. Et donc, c'est le côté éthique du journalisme.
Ouais.
Est-ce que vous êtes...
Ils vont répondre. Juste te dire, puisqu'on est confrères, que pouvoir travailler, pour une journaliste en tout cas, sur le témoignage avec 13 spécialistes sur des déportations de masse en plus, donc où il y a une connaissance historique, où donc on t'apporte un cadre scientifique, c'est juste le rêve, quoi. Parce qu'en fait, tu as la garantie, quoi. Voilà. Mais ils vont pouvoir répondre mieux, beaucoup mieux que moi.
Oui, mais même chaque personne que vous interviewez, vous... Je suis sûr que vous vous êtes posé la question.
Bien sûr.
Je crois qu'on peut tous répondre parce qu'effectivement, on s'est tous posé la question et c'est toujours très, très présent. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux hein, sur la vérité. C'est-à-dire que, bon, d'un côté, il y a effectivement tout ce qu'on connaît par les archives de ces mouvements-là. Donc, disons, sur la forme générale du récit, etc., c'est facile de vérifier. Et en fait, de facto, tous les parcours qu'on a vus sont, j'allais dire, complètement vraisemblables. Il y en a un, c'était tellement... Je vais le dire très finalement, il y en a un, c'était tellement beau, entre guillemets, hein, beau pour l'historien, c'est-à-dire... tellement caractéristique de tout, on se demandait s'il n'avait pas lu un livre, il n'avait pas répété presque. C'était tellement... Bon, ben ça peut exister. Mais alors, l'autre aspect, c'est que comme on leur demande vraiment le récit depuis leur tendre enfance, je pense qu'on s'est aperçu assez vite qu'ils rentraient dans un récit très personnel. Et je pense que la question n'est pas tant le mensonge que le silence aussi. Il y a, à l'évidence, très souvent... des silences sur certains épisodes, des silences, et ça c'est évident. Là-dessus, je pense qu'à partir du moment où, et ça on le sait, il y a sans doute effectivement des moments qui sont d'ailleurs peut-être imaginés, peut-être dits de façon convaincue et qui n'ont pas eu lieu. Simplement, le croisement de tous ces parcours nous donne, je pense, des éléments de réponse à votre question. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les faits en eux-mêmes, c'est les faits intégrés dans ces biographies. Les faits, on les connaît par ailleurs. Et du coup, je crois que ça résout partiellement ces choses-là. On peut pas exclure effectivement que, alors que quelqu'un ait complètement inventé sa vie, bon, il y a des gens qui inventent leur vie, mais ça, je pense pas. On peut pas exclure en revanche qu'effectivement, il y ait des épisodes, des choses importantes pour comprendre le parcours. Qui sont omises. Je vais vous donner un exemple quand même. On a un cas, par exemple, d'ailleurs, c'était un sens des questions que donnait à Jean-Sébastien Edelman. On s'est aperçu qu'on pouvait consulter certains dossiers de police de personnes qu'on avait interviewées. On s'en est aperçu après les avoir interviewées, ce qui est d'ailleurs un problème déontologique évident. Toute la question, c'est qu'effectivement, on a du coup une série de récits, un récit policier des causes de l'arrestation, le récit de la personne, le récit d'ailleurs postérieur de la personne qui est dans les archives parce qu'il demande à être libéré, donc il reconstruit tout ça. En fait, c'est passionnant pour l'historien, ça on le garde de façon anonyme, c'est passionnant pour l'historien. On s'aperçoit quand même que, bien sûr qu'il y a des éléments, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, mais que l'essentiel, pour ceux qu'on a consultés, l'essentiel des parcours, ils sont vraiment présents, interprétés différemment, parfois de façon criminelle, parfois non, mais ils sont présents dans tous ces récits-là. Mais votre question est essentielle.
Je voulais juste ajouter deux choses. Une, que pour quelqu'un, par exemple, comme moi, qui a travaillé longtemps dans les archives de la police, les archives du Goulag, et c'est là où je me suis posé énormément la question, est-ce que ces agents de la sécurité racontent beaucoup plus que face à un témoin, parce qu'il y a une manipulation dans l'écriture d'un agent du KGB, du MGB, de l'NKVD majeur, que quand un témoin, les yeux dans les yeux, te raconte quelque chose. Mais surtout, voilà, je voulais faire un exemple aussi de quel type de situation on peut se trouver. Par exemple, on peut se retrouver devant un témoin qui raconte et qui te parle du fait qu'il a été au camp, qu'il a été en Sibérie, et pendant qu'il raconte, nous, on sait très bien qu'il n'a pas été au camp. Il était dans un village spécial, il n'était pas entouré de barbelés, mais quel intérêt lui dire « Mais non, monsieur, vous n'êtes pas un camp, vous êtes... » L'important, c'est que lui, il l'a perçu comme un camp. Que toute sa vie, j'ai parlé comme ça avec un témoin, toute sa vie, toute sa famille, ils sont convaincus qu'ils ont été dans des camps en Sibérie. En fait, ils étaient dans un village spécial dans la région d'Arkhangelsk, qui n'a rien à voir avec la Sibérie et qui est assez loin de la Sibérie. Mais à un moment, je me suis demandé, mais pourquoi je dois lui dire ? Ça fait 40 ans qu'il pense qu'il a fait cette expérience du camp sibérien. C'est ça qui m'intéresse. Et sur ça, j'ai aussi construit son récit et j'ai pu travailler. Voilà, je passe aussi, parce que tout le monde peut-être a un petit truc à ajouter.
Mais c'est une petite dernière chose par rapport à ce qu'Alain évoquait tout à l'heure et par rapport à ce que Martha vient de dire. La question du silence d'abord. Je veux dire, je crois que dans ce qui nous a le plus interrogé dans ces témoignages, par rapport au problème que vous avez évoqué, c'est précisément c'est des silences. C'est certains épisodes qui s'avèrent difficiles et impossibles à raconter, certains épisodes qui sont oblitérés ou racontés d'une façon indirecte au troisième degré, ce troisième degré que le travail historien en amont nous permet de recouper. Et en ce qui concerne l'exemple de Martha, qui est particulièrement parlant, dans mon corpus hongrois, donc avec mes interlocuteurs hongrois, c'est arrivé deux fois que les gens construisent le récit sur la Sibérie, construisent le récit sur le camp, parce qu'à partir de l'expérience d'un jeune homme de 16 ans qui est raflé, emporté, train, etc., travail forcé, effectivement, la distinction essentielle pour les autorités et pour les historiens et pour nous dans notre analyse n'a aucune pertinence. Et donc, il s'agit plutôt de silence et de pertinence, je pense, que d'une recherche de la vérité qui ne me semble pas faire partie des visées, en tout cas sociologiques, de l'entretien. C'est une visée qui peut être policière dans certains cas, c'est une visée qui peut s'inscrire dans une enquête de type reconstruction d'une vérité factuelle. Pour nous, la recherche a porté autant sur l'expérience que sur sa restitution, c'est-à-dire sur les modes de restitution, sur les modes mémoriels, sur les reconstructions mémorielles et sur la place de cette expérience dans tout un parcours biographique. Et dans ce sens-là, je pense que nous sommes tout à fait d'accord tous les trois, et Emilia sûrement aussi, et toute l'équipe, que la vérité telle qu'on peut la chercher dans d'autres contextes n'est pas la visée importante pour nous, mais par contre les silences et les cadres de pertinence dans la restitution, certainement.
J'adhère à pratiquement tout ce qui a été dit, peut-être juste avec quelques précisions. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'utilisation qu'on en fait. On ne va pas raconter l'histoire des camps soviétiques à partir du témoignage qui dit « j'étais dans le camp, mais il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas ceci, cela ». Et ça veut dire, c'est ce que vient de souligner Anne-Marie, c'est qu'on travaille autant sur l'histoire que la mémoire de cette histoire, et ça, c'est très important. Voilà, donc on ne cherche pas la vérité historique à partir de ces témoignages, mais on cherche à comprendre la mémoire et la remémoration de l'histoire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais par contre, j'utilise le micro que j'ai dans ma main. Pour moi, personnellement, en revanche, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait consulter les dossiers personnels de nos témoins, donc à Vilnius, pour moi, personnellement, ça a posé un problème, et je pense qu'il y a encore des choses qu'on devrait régler, mais on n'a pas. Ça a été arrivé à la fin du projet, et on n'a pas encore eu de discussion collective. Et là, effectivement, c'est là qu'on se retrouve, qu'on ne peut pas éviter ce questionnement, cette question, et on se retrouve confronté potentiellement aux mensonges, aux déformations, et c'est un moment quand même très éprouvant.
Alors, il y a encore une autre question. Alors, peut-être que s'il y a d'autres questions, on va les prendre ensemble, parce qu'après, on doit retrouver notre témoin, Sylvain Linarté, qui viendra ce soir, cet après-midi, pardon, à 15h, témoigner dans cette salle. Madame.
C'était juste un peu une réaction à ce que vous venez de dire, parce que je comprends très bien que, effectivement, quand on fait un travail historique ou en sciences sociales, on situe ces entretiens-là dans un univers beaucoup plus grand de sources qui se croisent, etc. Mais est-ce que c'est la même manière quand on fait un site où on met en scène ces témoignages-là ? Là, est-ce que la question de la vérité ne se pose pas d'une autre manière que dans un travail historique, et encore plus dans le documentaire dont on vient d'écouter l'extrait, où la voix de la personne et la voix de l'actrice, je suppose qu'elle restitue son témoignage, ne donnent pas exactement le même effet. Voilà, c'était un peu ça.
Est-ce qu'il y a une autre question ? qu'on la prenne tout de suite.
Le site en lui-même aussi ne veut pas être porteur d'une vérité à travers la parole du témoin. Il y a des parties. C'est pour ça que le site, par exemple, il y a des parties où en savoir plus, où c'est signé par les chercheurs, où on explique les vagues de déportation, comment les choses se sont passées, ou des éléments plus historiques. Mais le site reste voilà, une expérience. Donc on parle du travail, on ne parle pas du travail selon... on peut mettre des documents aussi de la police politique, mais c'est une expérience du travail. Il y a, par exemple, une reproche qui nous a été faite à un certain moment quand le site était sorti, c'est que c'était un peu trop les vacances au goulag. Parce qu'effectivement, on a des témoins qui disent oh, « Mais cette taïga, Linarté, vous peut-être vous l'entendrez aujourd'hui, a un souvenir, malgré deux déportations, un père marocain et tout. » Quand elle parle de la taïga, c'est émouvant. Elle communique un amour pour cette Sibérie. Dans son entretien, on l'a repris dans un article qu'on a écrit ensemble avec Anne-Marie, elle dit, mais cette Sibérie, cette magnifique Sibérie, elle aurait dû faire être la terre du tourisme international, pas de la souffrance du peuple. Donc, c'est sûr que c'est assez choquant à entendre parfois. Donc, mais notre propos, c'est ne pas justement de... porter une vérité sur la Sibérie. La Sibérie est perçue à travers le témoignage et la rémémoration de nos témoins. Donc, par contre, par exemple, il y a des salles plus historiques qui sont la répression 41-44, la répression d'après-guerre, et là, on croise la parole du témoin, plus que la parole qui est l'écriture de l'historien, pardon, et la parole du témoin. Et là, on dialogue et vous pouvez trouver des éléments historiques. Je ne sais pas si j'ai essayé.
Je peux faire un léger complément. C'est un travail effectivement de mémoire et donc un corpus de témoignages qui a été fait dans des conditions absolument scientifiques. On est bien dans une parole de témoin et donc un corpus de témoignages oraux. Il n'y a pas de scoop sur l'histoire du goulag. En revanche, comme tout à l'heure les chercheurs l'ont expliqué, il y a effectivement ce corpus de témoignage permet donc de une compréhension dans le dialogue avec les archives, dans le dialogue avec leur production scientifique, une compréhension. Et aussi, c'est peut-être enfin, en tout cas, c'est à cela pour moi que renvoie l'intervention de Martha Craveri. Aussi, il y a quelque chose qui peut nous déranger, c'est-à-dire que c'est pas une parole de... Comment dire ? Les gens ne se présentent pas comme des victimes quand ils témoignent. Tous, il n'y en a pas un qui se présente comme une victime. Hein. Et leur témoignage étant inscrit dans leur récit de vie, puisque c'est ce qu'on leur a demandé, ce qui est parfois extrêmement étonnant, ce qui a été pour nous aussi une source d'interrogation et de réflexion très forte, c'est que ces témoignages ont évidemment beaucoup d'ambivalence. C'est une parole de douleur, mais aussi de joie, c'est-à-dire des expériences très intenses, avec tout ce qu'on peut imaginer ou projeter, hein, de difficultés, de douleurs, ça va jusqu'à la torture, la perte des parents, des situations d'humiliation. Enfin, c'est évidemment très, très difficile, mais c'est aussi leur vie. Et donc, même dans les moments les plus difficiles, la vie est là, et tant qu'on est vivant, on rêve, on respire, on aime, on joue, voilà. Donc il y a une ambivalence dans le témoignage, qu'il n'y a peut-être pas dans... qu'il n'y a certainement pas dans les archives soviétiques, par exemple.
Voilà. D'autres ambivalences.
Ou d'autres ambivalences.
Voilà. Bien, merci beaucoup pour votre participation à cette matinée. Et donc, on se retrouve à 14h30 pour la présentation du livre « Déporté en URSS ». Bonne journée. Comment ? Et le témoignage de Sylvain Linarté, naturellement. Bon appétit.